vide, l'immensité.
Vous nous passerez un petit coup de fil de là-bas.
Allô la planète, Éric Lange, France Inter. France Inter. La
différence. Bientôt 15h04, on retrouve là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Ouais, bonjour Daniel, c'est Fred dans l'Hérault. Je voulais simplement par l'intermédiaire de ton répondeur apporter tout mon soutien, comme j'imagine beaucoup des gens des AMG et autres, aux gens de l'Ouest là touchés par cette catastrophe naturelle. Et puis pour en revenir au concret, on nous annonce une aide exceptionnelle de 3 millions d'euros. Bah, je peux tout de suite dire, il peut multiplier par 10, 20 ou 30 ou 100 par rapport à ce que j'ai vu dans les médias, parce que 3 millions c'est vraiment trop limité. C'est là où on voit que on est dans de la médiatisation politicienne de tous ces effets d'annonce là, et que ça suffit quoi, ça suffit. Allez, bonne journée à tous.
Avec émotion, je voulais vous dire à tous le grand pas pour l'humanité franchi aujourd'hui. En effet, chaque postier a reçu dans sa boîte aux lettres ce matin un message de son président disant « Je l'ai fait ». Aujourd'hui, 1er mars 2010, La Poste devient une société à capitaux 100% public. Il a juste oublié de préciser que c'est contre la vox populi exprimée par la votation citoyenne d'octobre 2009. Nos élites se félicitent, leurs salaires vont exploser. Le premier actionnaire, c'est la Caisse des dépôts, qui est un investisseur, donc qui aura des comptes à rendre sur les marchés. Pour mémoire, aujourd'hui, l'État ne détient plus que 26,65% du capital de France Télécom. Eliane, fonctionnaire de La Poste, est fière de l'être.
Bonjour, je suis Pierre-Jean Resselet à Andrézy, et je voudrais vous donner à tous une petite phrase de réflexion. Une petite phrase de réflexion qui vient d'un de nos nombreux Chinois, mais celui n'est pas très connu, il s'appelle Chuang Tzu, et il dit la chose suivante. Ceux qui voudraient un bon gouvernement sans sa contrepartie de désordre, et la justice sans sa contrepartie d'injustice, ceux-là ne comprennent rien aux principes de l'univers, et Dieu sait s'ils sont nombreux. À bientôt, bonne journée à tous, au revoir.
Bonjour à tous. Alors à tous les AMG du Thouarsais, alors c'est dans les Deux-Sèvres, ou de passage, vous êtes invités. Alors même si vous avez des barrettes dans les cheveux, ou des perruques, des cheveux teints longs ou très courts, qu'importe, chapeau, bigoudi, enfin bref, vous avez compris. Vous êtes donc invités ce soir de 18h à 20h au Café Repère de Thouars, qui est le Café des Arts, 53 rue Saint-Médard. Bon courage à tous, c'était Marie-France.
Bonjour là-bas, comme tous les premiers samedis du mois, le repère de Strasbourg se réunira ce samedi 6 mars à 15h au bar La Perestroïka rue Tiergarten près de la gare. Le thème du jour ne sera pas comment placer son RSA en bourse, mais plutôt l'inverse. Alors on écoute attentivement le cours du professeur Lordon et attention à l'interro écrit de surprise. À samedi 15h au bar La Perestroïka à Strasbourg. Merci là-bas.
Et ben le voilà, le cours du professeur Lordon, Frédéric Lordon, que nous allons retrouver aujourd'hui. S'il reste un auditeur qui ignore qui est le professeur Lordon, il s'agit de Frédéric Lordon, qui est un chercheur, qui est un économiste, qui est l'auteur de la crise de trop, reconstruction d'un monde failli chez Fayard en 2009, et qui est un collaborateur régulier du mensuel Le Monde diplomatique. Que dirais-je pour introduire un petit peu l'entretien d'aujourd'hui, je regarderai cette page d'un quotidien qui nous apprend que 1 million de chômeurs en fin de droit en 2010. Voilà le titre, 1 million, vous entendez ? 1 million de chômeurs en fin de droit en 2010. Seuls 38% de ces fins de droit devraient bénéficier de la solidarité nationale. Ce sont donc plus de 600 000 chômeurs qui verront leur sort remis au seul soutien familial, entraînant un accroissement sensible de la pauvreté en France. Voilà ce qui nous attend dans les mois qui viennent. Voilà mon premier élément. Mon deuxième élément, c'est le titre d'un article du Diplo de ce mois de février, intitulé « Et si on fermait la bourse ?» qui est signé de Frédéric Lordon. et qui rappelle, il y a un peu plus d'un an, les gouvernements qui secouraient les banques aux frais du contribuable. La mission aujourd'hui est accomplie, mais à quel prix, point d'interrogation. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, évalue à 11 400 milliards de dollars les sommes mobilisées pour ce sauvetage, soit 1 676 dollars par être humain. C'est quand même pas mal. Voilà, il y a peut-être un certain rapport entre ceci et cela, entre ce million de chômeurs en fin de droit en 2010, dont 600 000 n'auront aucune espèce de soutien, sinon le soutien familial s'ils ont une famille, et d'un autre côté, ces renflouements extraordinairement coûteux. Si bien que Frédéric Lordon lance une idée, une proposition, qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, bien évidemment, c'est fermer la bourse. Voilà, on ferme la bourse. C'est son idée. Est-elle valable ? Eh bien, vous allez pouvoir en prendre toute la mesure au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. C'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet, donc avec Frédéric Lordon. Et si on fermait la bourse pour relancer l'économie ?
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a plus d'un auditeur qui va être content, surtout les auditrices, puisqu'aujourd'hui, on a le phare de la pensée économique qui est avec nous, Frédéric Lordon.
Bonjour. Ça démarre très bien, bonjour.
Frédéric Lordon, que vous connaissez, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux et géniales, Frédéric Lordon vient avec une idée assez forte qui va ruiner pas mal de monde, qui va mettre beaucoup de gens à la rue et à la porte de leur entreprise, c'est de fermer la bourse. Frédéric Lordon a décidé d'en finir avec la bourse, mais pas un petit peu, pas symboliquement, de fermer littéralement les bourses. Voilà pourquoi il est avec nous, il va nous expliquer ça pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Et il commence, le Frédéric Lordon, par nous rappeler que nous sommes sortis de cette crise, n'est-ce pas ? Quelle crise, c'est terminé. Et sauf que ça nous a coûté un tout petit peu cher, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, eh bien, cette crise nous a coûté 11 400 milliards de dollars. Voilà, c'est les sommes qui sont mobilisées pour ce sauvetage. Alors, première question, où en sommes-nous de la crise et pourquoi vous voulez absolument fermer la bourse?
Oui, fermer la bourse. C'est deux questions un peu différentes. Parce que précisément, ce que je voulais faire dans cet article, c'est après avoir beaucoup parlé de la crise financière, c'est distinguer deux formes de finances que la plupart du temps on confond. Alors c'est une distinction qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin qui a quelques propriétés analytiques rustiques. En gros, on pourrait dire, il y a la finance des marchés. Alors l'appellation n'est pas très finaude, mais on va s'en contenter pour commencer. La finance des marchés, c'est celle qui, en première approximation, et je souligne trois fois cette clause de première approximation, évolue loin de chez nous. Elle est dans des sphères absconses et éthérées. C'est vraiment les marchés de dérivés de crédit, etc. C'est très lointain. Ça n'a que peu de rapport avec l'économie réelle. Sauf que, évidemment, ça a toujours des rapports à un moment ou à un autre. D'abord parce que la finance autonome, ça n'existe pas. Que la finance entretient toujours des relations d'une manière ou d'une autre avec l'économie productive, et que la plupart du temps, en tout cas s'agissant de cette première finance dont je parle, ces relations, on les voit revenir au galop lorsque la bulle éclate et que le choc financier se transmet à l'économie réelle par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le canal du crédit, c'est-à-dire les banques ont perdu leur liquette et pour se refaire une santé, elles ne trouvent rien de mieux à faire que de fermer le robinet du crédit alors autant qu'elles le peuvent, et évidemment ça asphyxie la totalité de l'économie, ça a menacé de la déstabiliser, etc. Donc c'est la pétaudière dans laquelle nous sommes actuellement et de laquelle nous ne sommes pas prêts de sortir avant un sacré moment. Et puis il y a une autre finance, alors qui est vraiment différente en nature, qui est la finance actionnariale. Parce que autant la première finance évolue alors dans des sphères tout à fait éloignées, autant la seconde, la finance actionnariale, elle vit sur la bête à l'année. Je veux dire, elle est sur le dos des entreprises par construction, puisque c'est la finance qui manipule ces titres financiers qu'on appelle des actions, qui sont représentatifs des droits de propriété sur les moyens de production. Donc là, on ne peut pas être plus au contact des entreprises que cette finance-là. Donc il fallait faire la différence entre ces deux finances, et la question que vous avez commencé par me poser concerne la première plutôt que l'autre. Donc, c'est la question de la crise, le sauvetage, combien ça coûte, etc., etc. Alors ça, c'est une affaire où il faut faire le tri entre les satisfecit un peu empressés, la mauvaise et la bonne foi, etc. C'est une affaire un petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce qu'on annonce des sommes extravagantes qui totaliseraient le montant de la douloureuse pour venir au sauvetage de la finance. Et en fait, d'un autre côté, on voit les gouvernements qui se félicitent de ce que le sauvetage en question n'aura rien coûté aux contribuables, parfois même, dixit les ministres, rapporter un peu d'argent.
C'est vrai ou pas, ça ?
Eh bien, oui, c'est vrai.
Que ça a rapporté de l'argent ?
Eh oui, c'est vrai. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, mais c'est vrai à condition de faire une précision ultérieure qui va venir dans un instant. Si l'on comprend le sauvetage de la finance en son sens le plus restrictif, c'est-à-dire l'argent qu'il a fallu apporter au système bancaire lui-même pour le tirer de sa panade, la proposition est exacte. Pourquoi ? Parce que cet argent a pris plusieurs formes. Il a pris la forme de garanties, mais les garanties, c'était des sommes qui étaient mobilisées mais non tirées. Elles auraient joué si les pertes s'étaient accrues, mais les marchés financiers ont repris, sont étincelants. Donc tout va bien, les garanties n'ont pas eu à jouer. Et les montants principaux des enveloppes de sauvetage de la finance étaient essentiellement sous forme de garanties. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième levier de l'action publique pour le sauvetage de la finance, des prêts. Mais il est vrai que dans le cas français, par exemple, ces prêts ont été consentis par l'État à un tarif qui est à 400 points de base au-dessus du coût de ses propres ressources, les banques ont remboursé, l'État a fait sa petite marge là-dessus, et donc il a gagné un petit peu d'argent. Et puis il y a une troisième source de financement mobilisée pour le sauvetage des banques, ça a été des prises de participation, mais celles-ci finalement elles ont été d'un montant relativement modeste. Dans le cas des États-Unis où les prises de participation ont eu une échelle plus large, l'État a fini par les revendre, moyennant plus-value, et donc là aussi ça en est plutôt bien tiré. Aux États-Unis, la réduction de la facture du sauvetage des banques est très très impressionnante. Hein. On partait sur une base de 700 milliards de dollars à l'automne 2008, oui. On s'aperçoit qu'au début 2010, la facture s'est réduite à 100 milliards de dollars, que probablement l'administration Obama va éponger à l'aide d'une taxe adéquate levée sur les banques pour une période de 10 ans. Donc, en effet, considéré dans sa variante la plus restrictive, le sauvetage de la finance n'a pas coûté grand-chose au denier public.
Donc la crise est terminée.
Ah non, ça ne veut pas dire ça. Parce que le sauvetage de l'économie, on va dire, s'étend au-delà de la seule circonscription du système financier et bancaire. Pourquoi est-ce que les budgets publics connaissent des déficits et des dettes aussi astronomiques ? Tout simplement parce qu'il a fallu mobiliser des sommes, et alors là, autrement considérables, pour soutenir l'économie. Ce qu'on dit moins souvent, d'ailleurs, après s'être félicité que le sauvetage des banques ne coûtait rien ou presque, ce qu'on dit moins souvent, c'est que le sauvetage de l'économie est le deuxième sauvetage des banques, en quelque sorte. Parce que si on n'avait pas soutenu la conjoncture comme on le fait, et c'est ça qui fait véritablement l'explosion des dettes et des déficits, les banques auraient fait face à des torrents de mauvaises dettes telles qu'elles y auraient trouvé une deuxième occasion de trépasser. Bon, donc ça, c'est un sauvetage caché des banques, et celui-là, alors là, par contre, il coûte des sommes absolument faramineuses. Et il n'y a qu'à voir l'alarme qui règne de nouveau sur les marchés financiers au motif que les États sont désormais dans des situations de déficit et d'endettement qui sont insoutenables. Simplement, faudrait-il rappeler que ces déficits et ces dettes n'ont été consentis que pour éponger les petits dégâts de la finance privée. Voilà. Donc, on a un processus par lequel la crise de finances privées est en train de muter en une crise de finances publiques. Et pour cause, hein, je veux dire, on lui a repassé le mistigris à la puissance publique, comme d'habitude. Et le plus drôle est que la finance privée, qui n'a même pas la reconnaissance du ventre, après avoir été rescapée de ses propres turpitudes par les États, est en train de tomber sur le dos des États en question au motif que, non, c'est pas sérieux. Vraiment, s'endetter dans des proportions pareilles, vous comprenez bien qu'il va falloir mettre un terme à tout ça. Et là, on en est là.
L'Europe vole au secours de la Grèce car le pays est au bord du gouffre.
RTL, 10 février 2010.
La Grèce traverse actuellement une crise financière sans précédent. Son déficit public dépasse les 12%, bien loin des 3% imposés par Bruxelles. Athènes a préparé toute une panoplie de mesures pour réduire ce déficit et éviter la faillite, mais visiblement ses voisins ne sont pas convaincus. Les 27 se réunissent demain et dès aujourd'hui, Béatrice Adjage, les ministres des Finances ont multiplié les entretiens pour tricoter un plan de soutien d'urgence.
Mais oui, il faut dire que le feu approche. Les marchés financiers ne laissent aucun répit à la Grèce. Et comme nous sommes tous dans le même bateau, toute la zone euro peut tanguer très fort.
Il suffit de regarder dans la presse anglo-saxonne, c'est très très impressionnant. Hein. The Economist, par exemple, qui est quand même la référence en matière de diffusion de la pensée libérale, est en train de sortir de sa phase honteuse à l'occasion de laquelle il avait bien cru que son cher capitalisme allait être englouti dans le fracas. Mmh. Et depuis 3 mois environ, il n'y a pas un numéro de The Economist qui ne nous gratifie d'un dossier sur les finances publiques Et les uns sont tous plus effrayants que les autres. C'est-à-dire, on prend tous les pays en revue, hein, les uns après les autres. Regardez l'état du budget du Royaume-Uni. Mon Dieu, c'est effrayant. Regardez les États-Unis. Puis alors après, on prend les cas les plus croustillants. Hein. La Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, etc. Mon Dieu, est-ce que c'est pas épouvantable? Donc vous avez compris.
On avait fait la même chose en 83, au moment du tournant de la rigueur.
Il y avait mais c'est vraiment la comparaison historique pertinente. Parce que il faut se souvenir qu'en 1983, au plus fort du déséquilibre budgétaire, de la relance échouée, etc., le déficit public de la France avait atteint, tenez-vous bien, 3,2% du PIB, c'est-à-dire presque l'équivalent des clous de Maastricht. Mmh. Et à l'époque, ça n'avait empêché personne de hurler à la banqueroute de l'État, la faillite de la France, la décadence, la régression et tout ce que vous voulez. Mais les 3,2% de déficit, mais écoutez, on pleurerait pour les avoir aujourd'hui. Ce qui signifie, par parenthèse...
On est à combien aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est entre 8 et 9. Mais on n'est pas les gagnants de la course, hein. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que nous. Hein. Mmh. Et pas... Vous voyez, il y a cette espèce de racisme déboutonné de salle de marché qui a conduit à regrouper les pays à problème sous l'appellation de pigs, les porcs. Hein. Donc c'est Portugal, Irlande, Greece and Spain. Hein. Et l'idée, qu'est-ce que c'est que... vraiment, les porcs, c'est méditerranéen, vous comprenez. C'est des gens indolents, faut pas leur demander le sérieux de la gestion en prime. Quoi. Ils ont le soleil, c'est déjà bien suffisant, et ils ne font que des conneries. Vous voyez l'évolution de l'esprit public, hein, d'ailleurs, à 10 ans d'intervalle. C'est que, au moment de l'entrée dans la construction monétaire européenne, les Allemands se plaignaient du Club Med. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, on les appelle les cochons. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup progressé, hein, tout de même. Alors, évidemment, il y a l'Irlande qui fait tache, hein, quoi, dans le paysage. C'est pas des bronzés, les Irlandais. C'est plutôt des rouquins, quoi. Bon. Mais on les substitue sur simple demande par les Italiens. Et là, l'homogénéité ethnique est rétablie et l'ordre du monde avec. Bon. Voilà. Alors, ces pays qu'on appelle les pigs, malheureusement, vont bientôt être dépassés par la race des seigneurs. Parce que, du côté du Royaume-Uni et des États-Unis, je ne parle même pas du Japon, ça va sacrément mal également. Les mouches ont changé d'âne, donc ça ne tournoie plus autour des banques sur le point de s'écrouler, puisque les banques ont été sauvées, ça tournoie autour des États dont les dettes sont réputées devenir insoutenables, et insoutenables pour avoir eu la bêtise de s'être portée au secours de la finance privée.
C'est la contagion en Europe. Après la Grèce, l'Espagne et le Portugal font maintenant l'objet de grandes inquiétudes sur l'état de leurs finances publiques.
France Info.
Leurs dettes, leurs déficits. Du coup,
5 février 2010.
La bourse de Madrid a plongé de près de 6% hier et celle de Lisbonne de 5%. D'où vient cet affolement?
Alors, il vient bien de l'état de santé des pigs. Pig, c'est comme ça que les appellent les financiers anglo-saxons. P pour Portugal, I pour Irlande, G pour Grèce, S pour Spain, l'Espagne. Les cochons, on pourrait dire nous, les moutons noirs de l'Europe. Leurs finances ont plongé de façon vertigineuse. Tout ça a explosé avec la crise. Pour soutenir les économies, les États ont distribué milliards après milliards. Et à l'heure des comptes, eh bien, c'est l'euro lui-même qui se trouve affaibli. Il est le signe d'une situation qui est en train de déraper et puis d'un grand soupçon sur la reprise économique.
Frédéric Lordon, en quoi est-ce que ça a une incidence sur nos vies?
Alors ça a une incidence sur nos vies et ça risque d'en avoir une et sacrément méchante dans les années qui s'annoncent. Parce que la dette publique et les déficits ont atteint des niveaux tels que tout le monde les juge insoutenables et que par conséquent, on voit se multiplier les messages et les exhortations à réduire tout ça. Seulement, voilà le problème, c'est lorsque vous avez des déficits qui atteignent des niveaux de l'ordre de 10 ou à 12 ou même 14 points de PIB de produit intérieur brut, hein, comme c'est le cas de la Grande-Bretagne par exemple, et qu'on annonce qu'il va falloir revenir dans les clous à 3% voire à l'équilibre, on se doute bien que la potion va être sacrément difficile à avaler.
Pour qui?
Ah ben la potion, alors vraiment pour les contribuables et pour les citoyens qui vont casquer deux fois en quelque sorte. C'est-à-dire que comme contribuables, ils auront droit à quelques hausses d'impôts et surtout, comme citoyens, usagers, ils auront droit à des coupes monumentales dans les budgets publics. Donc, la chose...
C'est-à-dire santé, enseignement...
Absolument,
etc.
Santé, enseignement, prestations de toutes sortes. C'est ça la chose qui est tout à fait impressionnante, si vous voulez, c'est que cette crise monumentale, qui est quand même le produit direct de toutes les déréglementations, j'allais dire de tous les dérèglements, inspirés par l'idéologie néolibérale, est en train de créer une situation qui justifie non pas la disqualification de cette idéologie, mais son approfondissement. Et à un degré qu'on n'a encore jamais vu. Encore une fois, parce que la réduction de déficit qui est devant nous est d'un ordre de grandeur tel que nous n'aurons pas droit à l'un de ces plans de rigueur successifs tels que nous les avons connus dans les dernières décennies et qui, comparativement, vont nous sembler d'une extrême douceur et parfaitement aimable. Donc, ce qui est en train de s'annoncer justifié, et on pourra mettre toutes les paires de guillemets qu'on veut autour de ce justifié, justifié par les niveaux de déficit et de dette qui ont été créés par les déséquilibres de la finance privée, ce qui est en train de s'annoncer est une entreprise de démantèlement de l'État et de l'État social à une échelle encore jamais vue. Voilà. Alors, vous voyez, vous connaissez la thèse de Naomi Klein sur la stratégie du choc. Je la rappelle en deux mots. L'idée de Naomi Klein, c'est que le néolibéralisme n'a jamais si bien progressé qu'à la faveur de grands chocs. Alors, soit des catastrophes climatiques, sismiques, naturelles, etc., soit des chocs politiques, un putsch, une contre-révolution, ce que vous voulez.
Des avions qui rentrent dans des tours.
Par exemple, à partir de quoi l'agenda néolibéral embrayait et se déployait comme à la parade. J'ai bien l'impression que la situation actuelle pourrait finir par donner raison à Naomi Klein. C'est-à-dire, c'est un choc qui a été créé par les déséquilibres mêmes du libéralisme et qui justifie, assez paradoxalement tout de même, son propre approfondissement. Et là, je vais vous dire, chapeau. Quoi. C'est presque beau. Le néolibéralisme devrait sortir intellectuellement en charpie de cet événement. Et le voilà requinqué, renaissant de ses cendres tel le phénix et qui repart à l'assaut avec une énergie qu'on lui avait jamais vue.
Les années 40 ont été une décennie de découvertes charnières dans le développement de la médecine et de la psychiatrie. Les scientifiques ont développé une nouvelle technique pour soigner les adultes atteints de maladies mentales, l'électrochoc. Ce dernier nettoie le cerveau des patients en leur permettant de prendre un nouveau départ. Sur la page blanche ainsi obtenue, il devient possible d'imprimer une personnalité neuve et saine.
Refaçonner les individus, les mettre en état de choc afin de les soumettre. Un traumatisme collectif, une guerre, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste plonge tout à chacun dans un état de choc. C'est ainsi qu'après le choc, tel le prisonnier dans la salle d'interrogatoire, nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger.
Là-bas, si j'y suis.
What the response to Wall Street's crisis?
Naomi Klein, 9 octobre 2008.
And the global banking crisis.
La réponse à la crise de Wall Street aujourd'hui, aux États-Unis mais ailleurs, a été de transférer cette crise du secteur privé au secteur public.
And what we know is what is now a public crisis will be used to rationalize more cuts.
Et on sait très bien aujourd'hui que cette crise devenue aujourd'hui publique sera utilisée pour légitimer la nécessité évidente de réduire les dépenses publiques, de réduire les retraites.
So that's the next shock.
Et ça, si vous voulez, c'est le prochain choc à venir.
Quelles sont les solutions que vous imaginez, Naomi Klein?
Well, in this moment, I think it's clear the financial sector has failed on free market terms. The market wants these banks to die.
Pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, et pour reprendre uniquement les logiques de marché, le secteur financier a échoué. Le marché veut qu'il meure.
Frédéric Lordon a décidé d'en finir avec la bourse. Pourquoi faut-il fermer la bourse?
Alors, il n'y a pas de lien entre l'idée de fermer la bourse et ce qui précède. Parce que précisément, on en revient à la distinction des deux finances dont je parlais tout à l'heure. Et tout ce que je viens de raconter jusqu'ici avait trait à la première finance. La finance des marchés spéculatifs, des marchés de produits dérivés, avec toutes leurs conséquences telles que c'est en train de baver sur les dettes publiques, etc. Bon, la bourse, au sens strict du terme, ça ne désigne que les marchés d'actions. Donc ça a à voir avec la finance actionnariale, qui elle, au premier abord, n'est pas en cause dans la crise financière présente. Ça ne veut pas dire que cette finance actionnariale soit plus supportable pour autant, parce que, si vous voulez, cette finance actionnariale-là, elle produit ses effets au quotidien. Elle use dans le long terme. Elle est de temps en temps l'objet de quelques spasmes et de quelques secousses, mais sa nuisance et sa toxicité s'expriment plutôt en continu. Alors, c'est tout à fait autre chose, ça. La finance actionnariale, c'est celle qui pèse sur les entreprises, c'est celle qui les contraint à dégager des taux de rentabilité faramineux, c'est celle qui contraint les corps sociaux des entreprises à des efforts de productivité absolument insensés. Donc là, on est en train de changer complètement de registre. Et moi, c'est à cette finance actionnariale-là que je veux m'en prendre en fermant la bourse. Parce que tout de même, les désordres sociaux et pas seulement sociaux d'ailleurs, les désordres sociaux et économiques du capitalisme actionnarial, on commence maintenant à en avoir sacrément l'expérience. Je veux dire, c'est un spectacle qui ne nous est plus inconnu. D'une certaine manière, par exemple, là on est en train de parler de Total à Dunkerque, ou de Philips à Dreux. Bon, tous ces épisodes ont à voir avec la contrainte actionnariale. Donc ceci n'a rien à voir avec la finance des marchés spéculatifs, etc. C'est la contrainte actionnariale, ça.
C'est pas toujours facile de faire le lien entre l'actionnaire et le salarié.
Oui, hein, absolument.
C'est qu'on fait pas toujours, on dit, bon, bah, après tout, moi j'ai mes petites économies, là, j'ai pas les laisser pourrir.
Oui.
Et ben voilà, mon banquier me propose des trucs vachement bien, comment ça s'appelle? Ouh, ça va me rapporter tant. Voilà, c'est tout à fait, je deviens petit actionnaire, c'est pas pour autant que ça fait pas de moi un salaud, je suis un brave gars, etc. Me dire que c'est ça qui détruit les emplois, vraiment, j'arrive pas à y croire.
Eh bien, il faudra pourtant s'y faire. Alors, effectivement, ce qui permet d'entretenir cette forme de cécité volontaire, ou de mensonge à soi-même, ou de déni, appelez-le comme vous voulez, c'est la longueur et l'étirement de toutes les médiations qui mènent du petit actionnaire qui va mettre ses 200 euros dans son plan d'épargne en action, jusqu'à la contrainte vécue par les salariés, avec toutes les suggestions qui en résultent. Bon, donc, c'est ce système-là de médiation qu'il faut reconstituer pour que la logique du capitalisme actionnarial apparaissent, voilà, je veux dire, dans sa complétude et dans toute sa causalité de système, et pour qu'on se décide à y faire quelque chose. Bon, c'est là vraiment qu'il y a des choses à dire, parce que là, le capitalisme a connu, sur 2 ou 3 décennies, des mutations qui sont tout à fait considérables, et dont le trait le plus caractéristique consiste en ce pouvoir absolument exorbitant qui a été acquis par un groupe particulier à l'intérieur de la société. Ce groupe, c'est le capital actionnarial. Voilà. Bon, ce groupe a le pouvoir de soumettre les entreprises cotées à des injonctions de rentabilité financière qui ne laissent aux équipes dirigeantes pas d'autre choix que de s'y soumettre ou bien de disparaître. Alors, je voudrais insister sur cette différence faite entre les entreprises d'un côté, leurs équipes dirigeantes de l'autre. De même qu'il faudrait faire ailleurs la différence entre l'État et les gouvernants, ou d'une manière très générale, entre les institutions et leurs occupants. Je fais cette différence-là, et j'y insiste, pour souligner le fait que ne pas satisfaire des objectifs de rendement délirants, ça n'est pas du tout une cause de disparition pour une entreprise. En revanche, c'est une cause de mort violente pour les équipes dirigeantes. Parce qu'en effet, pour une entreprise, rester en vie n'a jamais imposé de dégager des rentabilités financières de l'ordre de 15 à 20%. Il suffit de rester à trésorerie positive. C'est-à-dire, il faut être en état de payer ce qu'on doit. C'est tout bête, hein. Et puis alors, il faut avoir, sur le moyen terme, ses comptes à l'équilibre, avec un petit profit si possible, en tout cas de quoi tenir sa position concurrentielle dans le marché considéré. Mais c'est tout, et pas davantage. En revanche, le patron du CAC 40, qui lui ne sort pas ses 15 ou 20% de rentabilité des capitaux propres lents, alors lui, il va voir son cours de bourse massacré, et il se retrouve confronté à un risque d'OPA par un concurrent qui promettra aux actionnaires de faire mieux que lui. C'est-à-dire qu'il est confronté au risque d'être débarqué, lui et sa fine équipe. Alors là, évidemment, ça fouette les sangs, bien sûr, comprenez. C'est pas difficile à comprendre. C'est la persévérance dans l'être patronal est le plus puissant des mobiles des équipes dirigeantes pour mettre toutes leurs organisations sous tension afin de satisfaire les exigences actionnariales. Et comme cette menace est suprêmement efficace, puisqu'elle prend les patrons par leurs intérêts existentiels, et accessoirement monétaire d'ailleurs, hein, rien ne s'oppose à ce que ces exigences des actionnaires soient constamment relevées. Mmh. Et la question, ça serait jusqu'où ? Jusqu'où le capital actionnarial va-t-il intensifier son emprise sur les entreprises ? C'est ça la question. Et la réponse, c'est que de cette intensification-là, nul ne voit le terme.
C'était vraiment très intéressant.
D'abord, je voudrais préciser que je parle sans contrainte et de mon plein gré. Ils ne me font pas de mal, je ne subis aucune violence, ils me traitent bien. Ils me laissent aller au bureau tous les jours et j'ai le droit de prendre l'ascenseur. Je peux participer à des réunions internationales et manger au self le midi ou à leur déjeuner à l'extérieur. Je dispose de réductions variées par l'intermédiaire du CE ainsi que d'une carte orange 3 zones. Il me donne un chèque à la fin du mois pour aller dans les magasins afin d'acquérir des biens de consommation avec. Ils me traitent bien, je ne subis aucune violence, ils ne me font pas de mal.
C'était vraiment très intéressant.
Frédéric, est-ce que d'autres économistes que notre Frédéric ont déjà imaginé ça, de faire fermer les bourses, ou ça vous est passé par l'esprit un matin en vous réveillant?
C'est ça, une élucubration...
L'ordonesque.
Purement idiosyncratique, je sais pas. Écoutez, je peux pas imaginer d'être le seul à avoir eu cette idée bête. Mais j'ai pas de nom à vous donner. Il faudra chercher.
Parce que quand on entend les commentaires boursiers sur nos radios, etc., on a toujours l'impression quand même que à entendre la voix de nos confrères que quand la bourse monte, eh ben ça va mieux pour nous. Bien sûr, on se dit, il y a des gens à qui ça rapporte, d'épouvantables actionnaires, etc. Mais enfin, c'est bon pour l'activité, ça fait de la croissance. Donc on se dit, quand la bourse va, tout va.
Oui, et c'est précisément cette idée-là que j'avais à cœur de défaire. Parce qu'après tout, la bourse, c'est une forme institutionnelle comme les autres, donc on peut faire son bilan. Et si le bilan n'est pas bon, et il s'ensuit la décision logique qu'on peut envisager de fermer la boutique. Alors on y va, le bilan, deux colonnes, d'un côté les plus, de l'autre côté les moins. Bon, alors du côté des moins, bon, je veux dire, il y a toutes les tares du capitalisme actionnarial, on en a parlé. Je voudrais ajouter que les coûts du capitalisme actionnarial, qui s'expriment au travers de cette forme institutionnelle qui est la bourse, ne sont pas que des coûts sociaux. Parce que si on parlait comme ça à quelqu'un qui n'aurait en tête que la logique économique, il nous dirait bon, « Écoutez, oui, c'est bien dommage, je sais, des gens souffrent, les inégalités se creusent, mais que voulez-vous, c'est économiquement efficace, alors on va se le garder. » Mais non, du côté des coûts, il y a également des coûts économiques, parce que vous savez que la contrainte actionnariale est ce qui met sous pression constante le salaire, et qui induit donc des manques à gagner et des manques à solvabiliser la consommation. Ce qui pose un problème pour écouler la marchandise, bien sûr. Alors, les libéraux ont une idée fine...
Crédit à la consommation.
Eh bien voilà, c'est ça. C'était d'instituer le crédit à la consommation comme béquille permanente de la rémunération salariale manquante. Alors, on a vu comment ça s'est terminé.
Bah oui.
Bon, pas très bien. Alors ça, c'est pour les moins. Alors maintenant, il faut s'attaquer à la colonne des plus, puisque c'est de ce côté-là qu'on trouve les promesses radieuses que vous nous rappeliez à l'instant. Et effectivement, de ce côté, on nous annonce monts et merveilles. Bon, alors, les monts et les merveilles, en gros, c'est toujours à peu près la même idée. C'est la bourse est le moyen moderne et efficace de financer l'économie et les entreprises. Donc, de pourvoir aux moyens financiers du développement économique. Et alors, il faut bien regarder qu'au départ, il y a une idée qui n'est pas complètement sotte. Je veux dire, d'un côté, dans l'économie, vous avez des agents qui dépensent moins qu'ils ne gagnent. Alors, en général, c'est les ménages. Ils ont de l'épargne, puis ils ne savent pas quoi en faire. Donc, c'est des agents qui ont envie de placer leur épargne. Ils ont une capacité de financement. Puis, de l'autre côté, vous avez d'autres agents qui sont les entreprises qui, elles, au contraire, ont besoin de fonds pour investir. Bon, alors l'idée de la bourse, c'est on va créer un marché spécial où vont se rencontrer les agents à capacité et les agents à besoin de financement.
Mais ça, les banques peuvent le faire, non?
Alors, ça passe souvent par des intermédiaires qui sont les banques. Mais, je veux dire, cette mise en connexion-là, voilà, c'est la grande idée de la bourse. Alors, on dit, ma foi, comment pourrait-on objecter à une trouvaille si ingénieuse? C'est parfait, cette histoire. Sauf que le grand paradoxe du capitalisme actionnarial, c'est que, au lieu que ce soit dans la logique initiale de la bourse, les actionnaires qui financent les entreprises, c'est maintenant les entreprises qui financent les actionnaires. Et alors là, il y a quand même un renversement stupéfiant et qu'il faut s'expliquer. Ça vient de deux choses, en gros. D'abord, la première chose, c'est que les actionnaires apportent des capitaux aux entreprises, sans doute, mais pas pour des prunes. Ils demandent une contrepartie. Cette contrepartie, ça s'appelle le dividende. Donc ça, c'est déjà un premier reflux en provenance des entreprises vers les actionnaires. Mais le point important, c'est que ce reflux a gagné en intensité dans des proportions absolument hallucinantes dans les dernières décennies. Pourquoi ? Parce que entre les actionnaires individuels, de jadis, les petits porteurs, et les entreprises, sont venus s'interposer un acteur intermédiaire qui sont ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Alors c'est qui les investisseurs institutionnels ? C'est les fonds de pension, les fonds mutuels, les SICAV, les OPCVM, les compagnies d'assurance vie, les banques qui gèrent les PEA ou les comptes titres de leurs clients, etc., etc. Donc, d'un côté, si vous voulez, vous avez ces énormes institutions financières qui collectent les épargnes et qui les agrègent. Parce que les épargnes individuelles, séparément, c'est une petite poussière d'épargne microscopique, une myriade, qui n'ont chacune aucun pouvoir. Le pouvoir, ça vient de l'agrégation des épargnes, et c'est pour ça qu'il revient à ces investisseurs institutionnels exclusivement, qui, eux, opèrent la constitution de la force de frappe financière. C'est eux, ils ont l'épargne concentrée dans leurs mains. Et de l'autre côté, ils se tournent vers les entreprises. Mmh. Alors ça change tout parce que, supposez que Daniel Mermet, petit porteur, enfin, imaginez qu'un jour vous
pourquoi
réussissiez...
Pourquoi je serais
pas
un gros
oui,
porteur,
mais parce que vous ne faites rien qu'à dépenser, c'est tout. Je veux dire, imaginez qu'un jour vous soyez capable de mettre un peu d'argent de côté, ouais, au lieu de tout claquer en costume smalto ou pour les traites de la Ferrari. Ouais. Bon. Et puis, vous apporteriez vos petites économies à Total ou à Danone, etc. Et tout le monde ferait comme vous. Bon, ben, vous toucheriez le dividende qu'on vous donne, vous diriez merci, et bien content quand il n'y en a rien. Quand les investisseurs institutionnels viennent se glisser dans ce jeu, que le marché boursier est animé exclusivement par eux, le rapport de force avec les entreprises change du tout au tout. Et l'histoire récente du capitalisme actionnarial, c'est l'histoire de l'émergence du pouvoir actionnarial, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'effacement de la figure du petit porteur, et de son remplacement par la puissance des intermédiaires. Et c'est ces intermédiaires immenses qui détiennent le pouvoir d'exaction et d'extraction. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'extraire le maximum des entreprises. Et ce maximum, il prend notamment la forme du dividende, qui a cru dans des proportions considérables. Entre 1982 et 2007, la part des dividendes versés aux actionnaires dans le produit intérieur brut est passée de 3,2 à 8,7%. C'est tout à fait considérable. Donc c'est avec des choses comme ça qu'on fait un changement de monde.
Class war.
The song I would like to dedicate.
J'aimerais dédier cette chanson à la classe ouvrière, la classe rebelle. C'est une guerre de classe, elle a lieu tous les jours. Les salariés se font tous arnaquer. Les décisions qui nous concernent, on peut rien en dire. C'est une guerre de classe. Maladie mentale, monétaire, décadence physique. C'est une question de proximité. C'est une question de liberté. C'est une question de pouvoir. De qui en a, de qui n'en a pas. C'est une question de guerre de classe. C'est une guerre de classe contre les travailleurs pauvres. C'est une guerre de classe contre les travailleurs pauvres. On sait tous pour qui on bosse, pour qui on se bat, pour qui on meurt. Comme ma grand-mère disait, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est une guerre de classe. Un hip-hop avec une conscience de classe. C'est les riches qui tiennent la boutique. On passe notre vie à leur remplir les poches.
It's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class. C'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe.
Class war.
Bon, mais ça me dit pas quand est-ce qu'on en finit avec le capitalisme. Frédéric Lordon.
Ah, alors là, ça
peut-être la prochaine fois, non?
C'est ça. Mais c'est toujours ça. Il faut toujours attendre la crise d'après, quoi, pour en finir. Quoi. Ouais. C'est ça le truc. Et alors, on en revient à cette expression autour de laquelle on déroule cette discussion. Se débarrasser du capital. Bon, se débarrasser du capital, ça peut vouloir dire plein de choses. Fermer la bourse, c'est la signification spécifique que prend cette formule quand on considère le capital comme moyen de financement. Mais on peut comprendre le mot « capital » autrement, en lui donnant une portée conceptuelle beaucoup plus étendue. On peut le comprendre non plus techniquement comme instrument de financement, mais en revenant tout simplement à ce que disait Papa Marx du sujet. On peut comprendre le capital comme « rapport social ». Le capital comme rapport social, c'est que le pouvoir découle de la propriété des moyens de production.
Oui.
C'est que les salariés se soumettent à l'autorité des propriétaires des moyens de production. Et donc, le capital comme rapport social, c'est le coup de force qui brise la symétrie première entre le capital et le travail. Parce que lorsqu'on regarde la chose de près, on s'aperçoit que les apporteurs de machines ne peuvent pas plus se passer des apporteurs de force de travail que l'inverse pour produire quoi que ce soit. Sauf que précisément, le capital, c'est plus que du capital machine. À l'origine, c'est du capital argent. Et entre le capital argent et le travail, celui des deux qui accédera à la domination, c'est celui qui peut attendre le plus longtemps en se passant de l'autre. Et alors à ce jeu-là, le résultat des courses est connu d'avance. La force de travail, elle a besoin de becqueter tous les jours. Le capital, lui, il peut attendre. Alors, par après, vous avez toute la grande machine du droit va se mettre en branle pour venir consacrer et durcir cet état de fait. Mais à l'origine, c'est ça. Donc, si vous voulez, on peut comprendre la rupture de symétrie entre le capital et le travail, mais comprendre, ça n'équivaut pas à justifier. Demeure toujours aussi injustifiable l'empire de la propriété sur la production, le pouvoir des propriétaires ou de leurs délégués sur les producteurs. Et là, il faut apercevoir ce qu'il y a d'inhabituel dans cette chose-là qui nous paraît si habituelle. Et pour ça, si vous voulez, je voudrais prendre un instant pour revenir en amont, mais au problème de la constitution des collectifs de production. Mais en reformulant le problème de la manière la plus simple et en même temps la plus générale possible. Sur ce sujet-là, le discours libéral, alors, est tout à fait catégorique. C'est le discours de l'entrepreneur et de la légitimité de celui qui entreprend. Bon, la grande question est la suivante. Jusqu'où s'étend la légitimité de celui qui entreprend? Et en particulier, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la légitimité de commander ceux qui entrent dans son entreprise? Le discours libéral dit oui sans la moindre hésitation. Mais ceci n'a rien d'évident du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose. Ça, c'est très bien d'avoir envie de faire un truc, mon bonhomme. Et surtout, faut y aller, faut pas hésiter. Si c'est ça la liberté d'entreprendre, moi, je suis tout à fait pour. Donc, l'entrepreneur est un gars qui a un désir de réalisation de choses. Sauf que c'est son désir à lui. C'est son affaire à lui. Donc, qu'il le fasse tout seul. Qu'il le fasse par ses propres moyens, s'il le peut. Alors là, vous voyez que les choses commencent à se compliquer. Parce que, supposez, vous voulez créer une entreprise de vente de papillons. Bon, ça c'est très bien, aller à la chasse aux papillons, on peut y aller tout seul. Donc on n'a besoin de personne. Vous voulez créer une entreprise de génie civil, ça va devenir plus compliqué. Tout seul, à la rigueur, vous arriverez à monter un muret. Mais si vous voulez passer à l'étape au-dessus parce que l'ambition vous vient et que vous voulez attaquer les ponts suspendus ou les centrales nucléaires, vous allez avoir besoin de monde. Alors, c'est exactement à ce moment-là que les choses basculent et que tout change. Les choses basculent à partir du moment où vous n'êtes pas capable de satisfaire tout seul votre désir de réalisation et où vous avez besoin du concours d'autres personnes. Et alors là, la question est la suivante. Comment faire entrer d'autres personnes dans votre désir à vous? La réponse capitaliste est très simple et tranchante. C'est l'enrôlement. Et l'enrôlement, il a même un nom dans le capitalisme. Ça s'appelle le rapport salarial. Alors que toute notre époque se gargarise avec ses nobles principes philosophiques, qui sont d'ailleurs ceux du libéralisme même, qui proclament l'égalité en droit. L'égalité en droit et en dignité de tous les individus. Or, le rapport d'enrôlement salarial, qui est un rapport asymétrique, d'obéissance contre monnaie, c'est tout sauf un rapport égalitaire. Alors, comment notre époque parvient-elle à se dépêtrer de cette contradiction béante entre, d'une part, des principes politiques qui proclament l'égalité, égalité en droit, mais surtout égalité en participation aux affaires collectives, et d'autre part, des formes d'organisation économique collective qui bafouent ouvertement ces principes? Eh bien, la réponse est qu'elles n'y arrivent pas. Alors, il faut l'aider un peu, la pauvrette. Je veux dire, comment faire pour l'aider à remettre d'équerre ce qui est ici notoirement bancal? La première des choses pour rétablir un peu de cohérence dans ce foutoir intellectuel, c'est de réaffirmer le caractère fondamentalement politique de toutes les formes de vie collective, et ceci quel que soit leur objet. Une communauté familiale, c'est une communauté qui a une part politique. Dans la famille, il y a des rapports de pouvoir, il y a des équilibres de puissance. Une communauté de macramé sur le Causse-Méjean ou sur le Larzac, c'est une communauté qui a sa politique, de même pour un collectif d'artistes. Eh bien, de la même manière, les collectifs productifs, qu'on appelle des entreprises, sont des communautés politiques. Alors, ça a l'air de rien, ça. Et en même temps, ça commence à déblayer sacrément le terrain. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on reconnaît aux collectifs productifs qu'on appelle encore provisoirement les entreprises, si on leur reconnaît leur caractère politique, alors on peut y importer tous les principes qui sont en vigueur dans l'ordre politique tel qu'on le conçoit classiquement. Et notamment le principe de l'égale participation de chacun aux affaires communes. Et c'est ça le point décisif. Et alors on peut le faire en disant ceci. D'une entreprise, il serait exagéré de considérer qu'elle est une chose publique, au plein sens du terme public. On ne peut pas la dire une chose publique parce qu'elle est trop limitée en nombre et en finalité. Ça concerne trop peu de personnes pour des finalités trop étroites. En revanche, on peut incontestablement dire d'elle qu'elle est une chose commune. C'est la chose commune de ceux qui y travaillent et de ceux qui la font vivre. L'entreprise, donc, n'est pas une chose publique. En latin, res publica. Elle n'est pas une république. En revanche, on peut dire qu'elle est une chose commune, une res communa. Une raie commune, si vous me passez ce néologisme étymologiquement fondé. Et dire que l'entreprise est une raie commune, c'est pas seulement se donner le plaisir d'un jeu de mots, si vous voulez, c'est se donner la possibilité de faire jouer toute une série d'associations d'idées et d'en conclure logiquement que si, en principe, j'insiste sur en principe parce que je sais ce qui sépare les principes de la réalité aussi, si, en principe, la démocratie est reconnue comme la seule forme admissible de vie de la République, eh bien, de la même manière, elle devrait être considérée comme la seule forme admissible d'organisation des raies communes productives. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut dire que là où dans l'entreprise capitaliste, la participation politique est entièrement indexée sur la participation financière. Le droit à la parole découle de la propriété financière, je veux dire, pour avoir voix au chapitre. Pour se prononcer sur le devenir de l'entreprise, pour dire quelle direction elle va prendre, ce que seront l'emploi, les salaires, les conditions de travail, les localisations ou les délocalisations. Il faut être un actionnaire. Eh bien, à l'encontre de ça, dans l'entreprise récommunale, la participation politique revient exclusivement et sur une base de partage égalitaire...
Aux salariés.
À ceux qui travaillent...
Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train d'inventer l'autogestion, là, comme vous êtes là, Frédéric Lordon?
Eh bien, très honnêtement, je crois que j'ai redécouvert le fil à couper le beurre.
Ben oui.
Mais c'est exactement ça, je veux dire. C'est comme ça que ça s'appelle. On peut l'appeler autogestion, récommune, récommunalisme, récommunisme, communisme, tout court. Parce que, à l'origine, le communisme, c'est pas cette espèce de chose qui a été défigurée sous le nom plus exact de socialisme réel. Le communisme, c'est le pouvoir des soviets. Je veux dire, là, il va y avoir quelques évanouissements à l'antenne, j'en suis désolé, mais... Et les soviets, qu'est-ce que c'est? C'était non, des
tant,
assemblées.
Tant que vous ne parlez pas d'islamisme, ça va.
Ça va, oui, ça ira. Bon, les soviets dans l'URSS n'ont existé qu'un an à peine. Bon, ils ont été trucidés dans les conditions qu'on sait. Mais le principe était là. Et oui, c'est ça l'autogestion.
Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma maman et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à toi.
Ça marchait bien l'idée d'autogestion dans les années 60 jusqu'au début des années 70. Mmh. C'était un courant.
Oui, c'était un
courant. C'était un courant assez fort qui était très convaincant.
Oui. Moi, je voudrais faire un petit peu de publicité pour un film que j'avais trouvé vraiment magnifique. C'était le film de Christian Roux, qui s'appelle Libre imagination au pouvoir, qui est le cas canonique de l'expérience autogestionnaire. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que poser le principe autogestionnaire ou récommunal, c'est une chose, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ce principe doit être accompagné de ses conditions de possibilité internes et externes. Je veux dire, il ne suffit pas de dire à une entreprise, allez, pof, on mute instantanément sous la forme autogestionnaire pour être viable immédiatement, parce qu'une coopérative autogestionnaire plongée dans un environnement extraordinairement agressif,
ouais,
de concurrence, avec des relations hostiles de la part de l'univers bancaire, par exemple, serait confrontée à d'immenses difficultés. Donc c'est ça que j'appelle les conditions externes de possibilité, c'est-à-dire la généralisation du principe récommunal ou autogestionnaire, ça supposerait également des transformations structurelles qui sont en fait toujours les mêmes. Bon, l'abolition de la contrainte actionnariale, ça c'est trivialement impliqué par le fait même du passage à l'autogestion, puisque là on se débarrasse du capital actionnarial, ça c'est entendu. Mais encore faut-il que la concurrence ne soit pas trop agressive, parce qu'une autogestion, c'est comme n'importe quelle communauté, si ça n'a à mettre en partage que de la pénurie et de la difficulté, au bout d'un moment ça finit par exploser. Ça part dans le décor. Or, la concurrence, c'est un truc extraordinairement agressif. Ça met toutes les organisations, quel que soit leur principe directeur, ça les met sous des contraintes et sous des pressions épouvantables. Et donc, chacune d'entre elles...
Donc, il faut limiter cette concurrence,
Il faut limiter cette concurrence. Chaque organisation a ses points de rupture, ça c'est clair. Si la pression des ambiants est trop forte, elle finira par craquer. Donc, il faut aménager l'environnement également. Et puis, également, on comprend très aisément qu'une coopérative autogestionnaire qui se rend à la banque, à la BNP... Elle va être regardée de travers, quoi, par son banquier. Donc là aussi, il faut réaménager le système bancaire en conséquence. En une autre forme d'organisation des structures bancaires, qui est ce que j'ai appelé un système socialisé du crédit. Alors, système socialisé du crédit...
Mais là, c'est pareil, tu es en train d'inventer la mutuelle, tu es en train
Exactement,
d'inventer...
Exactement, mais je suis en train non, pas non, de l'inventer, est, de la réinventer.
On est en 1880, là,
mais
avec
oui,
Lordon.
Mais absolument. Et alors, moi, j'ai pas peur du retour vers le futur, vraiment. Parce qu'il y a les choses qu'on nous a vendues sous le nom de progrès sont de telles régressions que, très honnêtement, j'ai l'impression que parfois, revenir à des principes anciens, c'est prendre à nouveau la direction du vrai progrès.
Au fur et à mesure que se développait la révolution industrielle, nos ancêtres étaient en train de réfléchir,
absolument,
comme tu le fais là, en train de se demander... d'imaginer des répliques et d'autres façons de vivre,
mais
tout
oui,
simplement par rapport à cette nouveauté qu'était cette révolution.
Mais absolument, eux prenaient acte du degré de socialisation qu'entraînait, le développement des forces productives, deux, l'approfondissement de la division du travail, et ils en tiraient des conclusions logiques. Et donc, oui, c'est eux qui travaillaient à inventer les principes de l'activité coopérative, de la mutualité, etc., etc. Alors, c'est pas que je découvre le principe de la mutualité, c'est que je le redécouvre, parce qu'il a été dévoyé dans des proportions telles qu'il n'est pas beau à voir. Je veux dire, il faut voir où en sont les banques mutualistes. C'est qui ? Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole ? Ces gens-là sont mouillés jusqu'aux sourcils dans la crise financière. Ils ont fait les pires conneries de la Terre. Et ils les ont faites parce qu'ils étaient tellement pressés de devenir eux aussi des grands de la mondialisation, qui piaffaient d'impatience. C'était la force motrice du Crédit Agricole pour abandonner une partie de son statut de banque mutuelle et devenir une société anonyme, oui. cotée en bourse. Oui.
Mais dans les mots mêmes, populaire, agricole, oui. mutuelle, oui. mutualiste, etc., oui. on voit d'où viennent ces mots.
Non mais bien sûr, mais bien sûr, à ceci près que là, pour le coup, c'est un héritage historique qui a été vendangé, ah, qui a été trahi. Très honnêtement, c'est dégueulasse, quoi. Donc, c'est ça qu'il s'agit de réinventer. Et c'est ça le truc vraiment difficile. Mais ça, c'est ce que j'essaye toujours de faire sentir, hein, et qu'on a entreaperçu à propos de cette idée de récommune, d'autogestion, etc. C'est que les transformations radicales ne se font pas par appartement. Ça ne se fait pas par partie. Il y a une cohérence systémique de la transformation radicale. C'est-à-dire, c'est d'un bloc. On ne peut pas mettre un bout de récommune là. Ou alors, bon, oui, peut-être il parviendra à survivre, mais ça restera une expérience locale, confinée, etc. Pour que ça prenne, il faut qu'il y ait tout le restant qui suive. La concurrence neutralisée, le système bancaire refait sur le mode mutualiste, etc. Pour être en affinité intellectuelle, idéologique, avec le principe récommunal, etc. etc. Et donc, c'est ça l'ennui, c'est que... C'est le truc qui m'embête en même temps, d'un point de vue assez personnel, parce que ça oblige à penser, je veux dire d'un mot un peu savant, de manière holiste, c'est-à-dire d'ensemble. Bon, ça conduit irrésistiblement vers la logique du plan d'ensemble. Et en même temps, je me méfie comme de la peste du plan d'ensemble. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est le plan d'ensemble, les plans d'ensemble, ça tombe...
Ça fait un peu planification...
Ouais, c'est que ça tombe du haut.
Voilà.
Et c'est ça l'ennui. Quoi. Bon, alors, je veux dire, ce qui signifie que tout est à inventer, quoi, économiquement,
quand ça tombe du haut, c'est pas seulement un ennui, c'est que ça marche pas.
Souvent, c'est que ça ne marche pas.
Ou à coup de trique.
Ou à coup de trique, et ça, c'est pas super non plus.
C'est limité, la trique.
C'est-à-dire, au bout d'un moment, les gens n'aiment pas. Bon, et comme ils n'aiment pas la trique actionnariale, ils n'aimeront pas la trique gosplaniste, etc., ils l'aimeront même encore moins, parce qu'ils seront en mesure d'identifier qui tient la trique. Donc on verra, c'est l'État, c'est le parti, etc., c'est lui qu'il faut foutre par terre. Alors que l'une des grandes forces du libéralisme, c'est que, comme disait Althusser, c'est quasiment un process en sujet, c'est un truc acentrique. C'est diffus, c'est des mécanismes de système, c'est impersonnel. On ne peut pas s'en prendre à un grand Manitou quelque part qui aurait un chapeau pointu, etc. Et lui dit « Ah bah, c'est lui, on va le foutre par terre et on sera libéré. » C'est pas comme la tyrannie. Il ne suffit pas de se débarrasser du tyran. L'expérience montrant en général d'ailleurs qu'on se débarrasse du tyran mais pas des causes de la tyrannie, hein, comme disait Spinoza. Mais là, encore moins que jamais. C'est un mécanisme tout à fait diffus, insaisissable,
atmosphérique,
etc.
Atmosphérique, un gaz.
Exactement, oui. C'est gazeux, c'est atmosphérique. Oui. De sorte que les gens...
C'est ce que Chomsky dit de la propagande.
Mais de sorte que les gens ne savent pas à quoi s'en prendre et que la plupart du temps, comme ils ne peuvent saisir que les médiations qui sont offertes à leur expérience immédiate, ils finissent par collaborer, mais de la manière, je veux dire, la moins maligne du monde, la plus innocente du monde, au système qui, à la fin des fins, les opprime eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en effet, cette espèce de perversion quasi esthétique, hein, du capitalisme actionnarial, c'est que le salariat s'asservit à ses propres frais, puisque le carburant de la grande machine financière, c'est lui qui la lui fournit, par l'intermédiaire de ses propres épargnes. Donc c'est terrible, c'est abominable, c'est très beau à voir, hein, à distance suffisamment lointaine.
Voilà, à condition d'avoir le détachement cynique suffisant.
Voilà, il faut voir ça de Sirius quand même, hein, pour trouver ça esthétique. Mais c'est un système absolument redoutable. On en revient d'ailleurs à ce qu'on disait au début de la conversation, quoi. Je veux dire, des fois, moi, je suis un peu pessimiste. On se dit qu'ils sont increvables, quand même. Un événement aussi énorme que cette crise financière, qui devrait les faire partir sous des épluchures de carottes, est en train de les remettre en selle comme jamais.
Ah ouais.
Alors là, vraiment... Bon, moi, c'est la raison pour laquelle je dis, là... Alors là, j'y ai longtemps pas cru, hein, à la rhétorique du choc, ou à l'analyse du choc de Naomi Klein, mais, je veux dire, là, il faut qu'on leur administre notre contre-choc à nous.
On est tous, tous, tous des gros tas de viande inutile. Tous, on ressemble à un élevage de poulets aux hormones. On est bien partis pour tous finir chômeurs et nos enfants, ils seront comme nous, au plus gros. Le travail, c'est en train de devenir un luxe réservé aux pays qui sont pas prêts d'avoir le RMI. Sauf que pour eux, on remplace leur salaire par un paquet de chips. Ben ouais, y'a plus une thune nulle part à cause du prix des 4x4. Le pognon, c'est une maladie mentale qui est en train de niquer toute la planète. Et nous, on nous fait croire que pour vivre peinard, y'a qu'à buter toutes les vaches folles. Et surtout les islamistes. La 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 la
voilà, c'est Didier Super, ça je suis sûr que vous allez demander ce charmant crooner. C'est Didier Super, numéro 1 au box-office de la basse si j'y suis. C'était un entretien avec Frédéric Lordon, monté par Coy Nguyen, parce qu'en fait cet entretien était très long, et Coy a réussi à le rendre extrêmement clair. L'article de Frédéric Lordon, « Et si on fermait la bourse ?» était paru dans Le Monde diplomatique de février 2010, mais il en repasse une couche dans le diplo de ce mois de mars. Et puis on a évoqué le livre de Naomi Klein, publié chez Actes Sud en 2008. Nous l'avions reçu d'ailleurs pour cette occasion, « La stratégie du choc ». Et la stratégie du choc va faire l'objet d'un documentaire de Michael Vanderbottom et Matt Wintercross, qui sortira en salle ce mercredi 3 mars. Demain, nous avons rendez-vous avec la Société des Amis de Botul. Oui, Botul, dans la basse si j'y suis, Frédéric Paget, Hervé Le Tellier, Lim et les autres. Nous parlerons de l'existence ou pas, de ce philosophe. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La basse si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Julien Dumont, Coy Nguyen et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Le Bot, et c'est Céline Rouzet qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Il est 16h sur France Inter. À demain donc, à 15h, là-bas si j'y suis, chez Botul. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut!
Bonjour, 51 morts à présent, c'est le dernier bilan du passage de la tempête Xynthia. Nicolas Sarkozy est arrivé sur place avec plusieurs ministres en fin de matinée. Il s'est d'abord rendu à L'Aiguillon-sur-Mer en Vendée, la commune qui a le plus souffert, puis à la préfecture de La Rochelle, où il a présidé une table ronde avec élus locaux et services de l'État pour faire le point sur les dégâts. Nous devons faire de toute urgence toute la lumière sur ce drame inacceptable et incompréhensible, a-t-il déclaré. À propos de l'urbanisme, pas question de continuer comme avant. La réflexion va être engagée pour qu'une catastrophe de cette nature ne se reproduise plus, a-t-il dit, mais l'heure n'est pas aux polémiques. Le chef de l'État a annoncé un plan de renforcement des digues et un plan d'urgence pour l'agriculture et l'ostréiculture. Cette activité a été durement touchée sur l'île de Noirmoutier et sur l'île d'Oléron, notamment à Saint-Trojan, Pierre Marsa.
Sur l'île d'Oléron, ce sont surtout les cabanes des ostréiculteurs qui ont souffert de cette tempête. À Saint-Trojan, elles venaient pourtant d'être remises en valeur par la municipalité avec de belles couleurs. Des cabanes ostréicoles qui ont été construites juste après la guerre. Et de mémoire d'anciens, on ne se souvient pas d'avoir vu pareil désastre depuis la construction de la digue dans les années 60. Une digue qui a permis à cette petite station balnéaire de construire des maisons, des hôtels-restaurants et même un supermarché plus près du littoral. Et c'est ce centre-bourg qui est le plus touché par la tempête. Le grand parking est sous les eaux que les pompiers s'acharnent à pomper. Une demi-douzaine de voitures sont encore garées ici avec de l'eau jusqu'aux fenêtres. La cave d'un restaurant est remplie d'1,50 m d'eau. Le restaurateur n'a pas pu encore constater tous les dégâts. Il attend que l'eau reflue. Tout le matériel est hors d'usage et il ne sait vraiment pas quand il pourra rouvrir son établissement. À Saint-Trojan-les-Bains, sur l'île d'Oléron, Pierre Marsa, France Bleu La Rochelle, pour France Inter.
Et parmi les aides annoncées par le chef de l'État, 3 millions d'euros vont être débloqués pour faire face aux dépenses immédiates des victimes. L'arrêté de catastrophe naturelle sera signé dès demain. Il est nécessaire pour faire jouer les assurances. Enfin, peu à peu, le courant revient grâce au travail ininterrompu de près de 5000 employés et entreprises partenaires déployés par ERDF sur le terrain. 172 000 foyers sont toujours privés d'électricité sur l'ensemble de la France. Ils étaient 500 000 ce matin. Plus d'un millier de producteurs laitiers venus de toute la France ainsi que d'autres pays comme l'Allemagne, la Suisse ou encore la Belgique ont défilé au salon de l'agriculture à Paris. Une marche funèbre destinée à dénoncer le prix bas du lait. Sur le fond, rien n'est réglé à ce jour. On n'a pas eu d'augmentation. 98% des producteurs de lait perdent de l'argent, affirme le président de l'Association des producteurs laitiers indépendants qui avait appelé à cette manifestation. L'imitateur André Aubert est mort. Il avait 86 ans. Il avait connu le succès dans les années 50 et 60 avant de devenir un personnage populaire de la publicité, le Don Patillo d'une célèbre marque de pâte inspirée du Don Camillo qu'interprétait Fernandel.
Question du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde, avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquili.
Notre invité ce mercredi est Éric Woerth, le ministre du Budget. Nous évoquerons avec lui l'aide du gouvernement aux départements sinistrés après le passage de la tempête, mais également les difficultés de la majorité à moins de 2 semaines du premier tour des élections régionales. Rendez-vous avec Éric Woerth dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, tout de suite le carrefour de l'Odéon. Avec vous Frédéric, bonjour.
Bonjour Dominique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui précisément l'anniversaire de Frédéric Chopin, né il y a 200 ans à Zelazowa Wola, en Pologne bien sûr, son pays, non loin de Varsovie, dans une coquette maison, campagnarde d'ailleurs, sa famille était plutôt assez aisée, le père était instituteur, précepteur, enfin on ne manquait de rien sans être très très riche, et il y a une petite erreur quelquefois dans certains livres, puisque certains disent que Chopin est né le 22 février 1810, non, c'est une faute soit du curé qui l'a baptisé, soit de son propre père d'ailleurs, Nicolas, qui a peut-être eu un moment d'égarement, le baptême ayant eu lieu assez tard après la naissance. En tout cas, lui-même disait qu'il était né le 1er mars. Dans ses lettres, on voit toujours que son anniversaire est fêté ce jour-là, donc on s'en tient à cette date. On parle même de 6h de l'après-midi. Donc nous sommes un tout petit peu en avance, de 2h. Et quoi qu'il faut tenir compte aussi, bon, des décalages horaires, enfin des petites choses, mais on ne sait pas ce qui était pratiqué à l'époque. Dans l'après-midi en tout cas, et Chopin, enfant absolument précoce, a écrit et publié, fait publier, on a publié pour lui, une polonaise en sol mineur, il avait vraiment l'âge où on perd ses dents encore, petit gamin, et cette polonaise en sol mineur, bah, c'est déjà bien touchant, évidemment il n'y a pas les développements ultérieurs, il n'y a pas la force, il n'y a pas la culture derrière tout ça, mais enfin quand un gosse de 7 ans écrit ça, on peut se dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Thank you. Frédéric Chopin, âgé de 7 ans, polonaise en sol mineur, interprété par Garrick Olson. En voici une autre, il faut définir la polonaise d'ailleurs, comme l'a fait Franz Liszt, qui dit que cette forme musicale a galvanisé toutes les torpeurs de nos indifférences. Les plus nobles sentiments traditionnels de l'ancienne Pologne y sont recueillis et réunis. La bravoure et la valeur y sont rendues avec la simplicité qui faisait cette nation guerrière le trait distinctif de ses qualités. Un style un peu compliqué comme toujours avec Franz Liszt, mais enfin quand même un témoignage très très intéressant parce qu'il était tellement proche de son petit frère Chopin. Alors cette autre polonaise qu'on va entendre en si bémol mineur, on va entendre un petit peu, elle est aussi une œuvre de jeunesse. Il avait 16 ans, il part faire un voyage là, et puis il a écrit simplement sur la partition à un de ses proches, à Guillaume Kolberg, adieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la polonaise de l'adieu, mais il n'y a rien de tragique dans cette piécette.